Bonjour, je m'appelle Inès Agli, je suis élève de première.
Moi, je m'appelle Doren Halani, je suis élève de première également.
Bonjour, je m'appelle Witty Ramer et moi aussi je suis en première.
Bonjour, je m'appelle Soukaina Fiette et je suis toujours en première.
Et bonjour, moi je suis Isma Hamzaoui Boyo et je suis professeure d'histoire-géographie au lycée depuis 6 ans.
Super.
Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la santé mentale masculine. Donc la santé mentale se réfère à l'état général de notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle englobe notre capacité à gérer et à faire face aux défis de la vie, à ressentir, exprimer et gérer nos émotions, à maintenir des relations saines, à prendre des décisions et à faire face aux difficultés. Donc elle concerne également notre pensée, notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, ainsi que notre capacité à fonctionner de manière adaptative dans la société. Donc, avoir une bonne santé mentale ne signifie pas simplement l'absence de troubles mentaux. C'est un état de bien-être dans lequel nous sommes capables de réaliser notre plein potentiel, de faire face au stress de la vie, de travailler de manière productive et de contribuer positivement à notre communauté. Donc, je vous donne la parole. On va
commencer le tour de table.
D'accord. Donc, c'est quoi? Il y a des questions? Qu'est-ce qu'il faut
Alors, est-ce que la santé mentale masculine est un sujet pour nous? Alors, qu'est-ce qu'on en pense?
C'est pas très souvent abordé, déjà. C'est pas quelque chose qui se pose.
C'est un sujet plutôt tabou, moi, je trouve. On n'en parle pas très souvent, pas assez. Et il faudrait en parler un peu plus, quand même, du coup. Se poser un peu plus de questions, se pencher aussi sur la question de la santé des hommes, je pense. Voilà, ça mérite, quand même.
C'est vrai qu'à la limite, je trouve qu'en tant que femme, on aborde le sujet, où, depuis quelques années en tout cas, la parole se libère. Mais c'est vrai qu'en matière de masculinité, on en entend souvent parler pendant le Movember par exemple, les mois dédiés aux hommes, ou bien les jours dédiés au cancer de la prostate, enfin des jours un peu spéciaux. Alors que, par exemple, les femmes, il y a des comptes qui sont dédiés à ça, et la parole est beaucoup plus libre. Et je pense qu'aussi, chez les hommes, c'est pas un sujet dont on discute et qui même se réfléchit, je pense. À vous de me donner votre avis.
Ben, moi, j'ai l'impression que de nos jours, il y a une espèce de blocage, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tabou, ce sujet. Comme si les gens essayaient d'esquiver le sujet, essayaient de renfermer ce problème quelque part, ils essaient de contourner par diverses solutions.
Ouais. Et ça, c'est peut-être dû parce qu'il y a de nombreux hommes qui ont comme une trop grosse fierté pour parler de leurs problèmes ou de s'ils vont mal. Donc ça, forcément, un homme n'assumera peut-être pas qu'il va mal, juste parce que c'est un homme.
Mmh. Et puis, à force d'ignorer et de passer sous silence leurs troubles mentaux, le manque de communication des hommes entraîne la détérioration de leur état et donc aggrave leurs problèmes mentaux. Donc là, j'ai quelques statistiques des hommes canadiens et de leur santé mentale. Donc environ 10% des hommes éprouvent des problèmes de santé mentale au cours de leur vie. Environ 1 million d'hommes souffrent de dépression grave chaque année. En moyenne, 4000 personnes se suicident au Canada chaque année, et de ce nombre, 75% sont des hommes. Les homosexuels ont un taux de dépression, d'anxiété, de suicide, d'automutilation et de toxicomanie plus élevé que celui de leurs homologues hétérosexuels. Et le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Saskatchewan et l'Alberta sont des provinces affichant en ordre décroissant le taux de suicide le plus élevé.
Ah ouais, ben peut-être que ça doit être dû à comme c'est dû à un manque de communication, un manque de mesures appliquées sur la santé mentale des hommes, peut-être. Non, c'est plutôt
ouais,
ça,
je
non
pense.
Il n'y a pas beaucoup de mise, on n'a pas beaucoup de moyens mis déployés à ce sujet.
C'est ça que j'allais vous poser la question, mais est-ce que vous, en tant qu'homme, vous êtes plus à même de vous demander si vous voulez aller chez un psychologue, par exemple, pour de trouver des solutions à votre mal-être?
Pour mon cas, par exemple, il y a plein de périodes où j'ai eu, comme tout le monde, je pense, un petit coup de mou. Hein. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir un psychologue? Ou juste d'en parler autour de moi, ou est-ce que c'est la même chose, ça reviendrait au même qu'une consultation chez un psy finalement. Et puis je me suis habitué en fait à discuter avec les autres. Aller chez un psy, je sais pas, je trouve que c'est un cas un peu trop extrême pour c'est mon avis après, hein, ça peut être l'avis de enfin ça c'est juste mon avis, et je trouve que juste parler aux autres, discuter des problèmes, c'est une solution qui est à mon goût la plus sûre.
Pour mon cas, aller voir un psychologue ou bien ça n'a jamais vraiment été une idée qui m'est passée par la tête. Bah, j'ai toujours grandi comme ça, si ça va mal, je garde pour moi et j'avance et ça passera sûrement. Mais voilà, on rencontre souvent des personnes qui sont là, qui vous écoutent. Et donc forcément, se lier à certaines personnes, ça nous fait nous sentir un petit peu mieux, on oublie, on parle. Et donc chacun, là, en fait, c'est pas quelque chose de général. C'est chaque personne, comment il peut réussir à traiter ça. Si il a besoin d'en parler à un proche, s'il a besoin de parler à des inconnus pour ne pas que ça reste, s'il a besoin de... Mais bon, voilà, chacun son truc, en fait.
Mais vous trouvez pas que la santé mentale, c'est devenu un sujet hyper actuel? Ça a toujours existé, le fait que les hommes aient des problèmes, mais aujourd'hui, le fait que les langues se délient à ce sujet-là, c'est pas à l'air du temps? Est-ce que c'est pas lié justement à un changement des mœurs, à une nouvelle définition des genres, des rapports hommes-femmes? Parce qu'auparavant, je pense que, je sais pas, si je pars en arrière, genre dans les années 50, on n'aurait peut-être pas imaginé aborder ce sujet dans dans une discussion. Alors que parler du mal-être féminin, c'est tellement banal. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un changement, une libération peut-être aujourd'hui des mœurs à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Parce qu'on en parle, on met des mots déjà mots MAUX, donc c'est déjà intéressant de voir cette évolution.
C'est vrai que déjà le fait que ces dernières années, le fait qu'on en parle plus pour les femmes, le fait que voilà, les femmes ne gardent plus ça pour elles, elles s'expriment et puis elles peuvent ressortir tout ce qui est, certains hommes se sentent peut-être un petit peu plus en confiance, se disent « Bon, si les femmes sont écoutées, pourquoi un homme ne le serait pas ?» Mais après, il reste toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette part de fierté qui fait qu'un homme n'assumera peut-être pas d'aller mal ou de vouloir en parler.
Donc toi, tu penses que c'est encore actuel, cette espèce de...
Il reste encore une
d'image à montrer quand même.
Oui, qu'un homme, il ne doit pas montrer ses problèmes.
Il ne faut pas trahir, etc.
Exactement, ouais.
Ouais. Je pense que tant que certaines sociétés resteront patriarcales, ça restera comme ça, parce que en réalité, ils sont eux-mêmes victimes des normes qu'ils imposent. En réalité, c'est ça le. Donc, si on a répondu à cette question, on peut passer à un petit débat. Donc, ouais. En fait, ça serait sympa de réfléchir. À l'origine de tout ça, donc d'où ça vient, toutes ces normes patriarcales, qu'est-ce que vous pensez avoir une réponse à ça? Ça remonte à très loin, je pense.
Ouais, à mon avis, c'est plus la nuit des temps. Tu veux parler?
La nuit des temps, c'est trop facile.
Je connais pas cette période, la nuit des temps. C'est juste chronologie. Ah, c'est
depuis la nuit des temps.
Je suis désolée. Nuit des temps, de temps à temps.
Je pense que quand même, c'est depuis qu'on existe, quoi, depuis que l'humain a réussi à mettre des mots sur ses pensées, à écrire, quand même qu'il y a une espèce de... À partir du moment où on a donné une fonction à des humains, c'est-à-dire que chaque humain a sa fonction d'être, par exemple, de travailler à tel endroit, de faire ci, faire ça, on a une espèce de consensus général de les hommes font ci, les femmes font ça, et ça reste comme ça, parce que c'est pas la même chose. Alors que, au final, quand plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que, non, en fait, c'est pas possible. Les humains, c'est des humains. Certes, il y a des sexes différents, mais ils sont faits pour cohabiter, pour avoir les mêmes... Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes envies, les mêmes rêves. Et donc, forcément... Voilà, j'arrive pas à finir ma phrase.
Moi, je pense qu'il y a un gros rapport avec les religions, notamment monothéistes, parce que dans les trois religions, on retrouve le rôle de l'homme qui est...
au centre de tout.
C'est ouais. Ça, au centre de tout, mais qui rapèce pas forcément la femme, mais qui ne la valorise pas autant, on va dire. Et puis je pense que... du coup, ça a impacté, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. On peut remonter aussi, par exemple, aux mythologies grecques. Le dieu des dieux, c'est Zeus. Il est considéré comme un homme. Et puis, même s'il y a des déesses qui ne représentent pas forcément les stéréotypes qu'il y a autour des femmes, on voit bien qu'à cette époque-là, les femmes, elles n'avaient pas une grande place. Elles n'avaient pas toute place dans la société. Donc je pense qu'il y a aussi ça.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, Dorian, c'est vrai, et c'est finalement les êtres humains qui ont prédéfini, imposé, assigné une fonction sexuée. Mmh. Et quand on, en fait, quand on réfléchit, si on regarde le règne animal, quand tu regardes par exemple le lion et la lionne a l'ascendant sur le lion, sur bien des,
oui.
a bien des aspects. Donc finalement, la nature n'est pas de fait amenée à considérer que la femme serait de fait inférieure à l'homme, si, si on s'en tient à cette comparaison-là. Donc on est vraiment dans une structure sociale construite sur le temps long. L'homme s'est accaparé le pouvoir depuis des siècles. Mmh. Donc ouais, c'est intéressant.
Hein. C'est vrai. C'est que...
Mais après, le fait de voir que bah, dans l'histoire, cette supériorité qui a été prise par l'homme, etc., faudrait maintenant se poser la question en quoi ça a mené au fait que les hommes ne parlent pas de leurs problèmes ou bien ne sont pas aptes autant qu'une femme ou bien à pouvoir se libérer, enfin, du moins de nos jours. Quoi.
Mais je pense que dans l'histoire, ils ont toujours du coup, accordé une place à la femme. Enfin, ils l'ont toujours représentée comme une femme sensible, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Soukaina. Une personne du coup sensible, une personne toute mignonne, une personne qui peut-être peut mieux ressentir certaines émotions que l'homme. Et donc je pense que c'est ça le fait que la société patriarcale en souffre aujourd'hui. Je veux dire, les hommes ont toujours voulu avoir cette image d'homme fort, qui va toujours défendre la femme, du coup, qui aura toujours ce rôle très très important, et qu'au final, la santé mentale, c'est un sujet un peu plus... comment dire ?
Féminin.
Oui, voilà, féminin, tout simplement.
Mais c'est vrai que comme on parle de pouvoir égocentré chez l'homme, je pense qu'ils ont aussi du mal aujourd'hui à admettre que le pouvoir n'est pas infaillible, entre guillemets, et peut-être que la manière dont les hommes ont de... garder le pouvoir, c'est aussi de ne pas montrer leurs failles. Et c'est un souci aujourd'hui, parce que je pense que exposer ses failles, c'est important pour tout le monde, et les femmes, elles, l'ont entre guillemets compris. Et chez les hommes, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Donc, je pense qu'il y a des solutions à trouver.
Oui. Aussi, je pense qu'il y a une autre origine à tout ça. Scientifiquement parlant, on sait que l'homme est plus fort physiquement que la femme, et donc je ne sais pas si cet aspect-là a joué en faveur de l'homme ou pas. Surtout à l'époque où
certainement que ça a alimenté un discours. Hein.
Mais ça joue en faveur au fait de ne pas en parler, du coup, si ça va mal.
Bien sûr, c'est le fait je suis fort, je ne parle pas, je ne pleure pas, je ne suis pas triste.
Pour eux, ça les arrangeait jusqu'à ce que ça aille mal.
C'est ça.
Mais ça encore, parce que on parle quand même d'il y a un sacré moment, ça a toujours été comme ça. Il a dit la nuit des temps, mais depuis toujours c'est l'homme qui a pris l'ascendant. Mais encore, c'est pas pour les raisons qui sont encore une fois de nos jours. Par exemple, actuellement, une femme en termes de droit ou bien on est au même stade qu'un homme. Mais le fait qu'un homme ne veuille pas parler de ses problèmes, c'est quelque chose qui est resté. Donc pourquoi encore blâmer cette supériorité qu'il a pris au fil des années? C'est ça le... Je sais pas s'il y a forcément...
Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi blâmer cette supériorité?
Enfin, c'est pas le fait de... Puisqu'il ne va mal, c'est parce que... puisqu'il va mal, c'est parce qu'avant, il avait la supériorité ou bien... Parce que si c'est quelque chose qui est resté, ils auraient continué à ne pas en parler ou bien à ne pas...
On mais ça voir existe
pourquoi... Ouais, ça dépend où.
T'as soulevé un truc d'intéressant, t'as parlé des droits. Certes, dans beaucoup de pays, les droits... question de l'égalité homme-femme est une évidence, mais il y a un décalage entre les droits et les mœurs et les mentalités.
Oui.
C'est-à-dire que tu prends le cas en France des représentations autour de la femme et du pouvoir, on a encore beaucoup d'idées préconçues selon laquelle une femme ne peut pas être liée à la notion du pouvoir et à la place du pouvoir. Je me souviens, mon âge plus avancé que vous me permet d'avoir quelques exemples qui viennent comme ça soudainement. Pendant la campagne présidentielle qui a vu s'opposer Sarkozy à Ségolène Royal en 2007, donc là c'est la première fois qu'une femme est qualifiée au second tour dans la présidentielle en France. Et au sein même de la famille politique de Ségolène Royal, il y avait des espèces de phrases un peu assez cinglantes, du genre « mince, mon sale qui est finalement au deuxième tour, mais qui veut garder les gosses ?» Vous voyez, donc on en est là encore.
Ah ouais,
pourtant, ce sont des gens qui sont instruits, qui ont un certain niveau, mais les structures mentales sont toujours plus enracinées et plus difficiles à dégommer, à déconstruire qu'une loi, que des institutions. Voilà, ça a toujours été comme ça.
Mais c'est vrai que aussi je me pose comme question, qu'est-ce que perdent les hommes à montrer leurs émotions? Parce que après, l'autre question qu'on pourrait soulever par rapport à ça, serait de demander, enfin de se demander, qu'est-ce qui, parce que au final, exprimer ses émotions pour un homme, c'est aussi se rapprocher de la féminité entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à être féminin? Genre sérieusement, je sais pas.
Mais après, encore une fois, c'est... le fait d'être sensible ou bien, c'est encore un... c'est quelque chose qui a été installé par l'homme, et pas l'homme, genre l'homme avec grand H, donc là c'est la femme qui est sensible, c'est la femme qui l'est, donc au final c'est resté, et pour un homme, c'est parler de, cette... enfin, parler de ses problèmes, c'est comme si ça s'assimilait à une femme, mais ça, c'est... encore une fois, c'est, pas... c'est l'être humain qui a fait ça, qui a mis comme quoi la femme était sensible, l'homme est censé être fort, et donc c'est des choses qui sont restées, et de nos jours, certains, bah, ceux qui en parlent, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec, par exemple, cet avis-là.
Mais en quoi ce serait un antonyme du pouvoir d'exprimer ses émotions et puis même la sensibilité? En quoi ça serait quelque chose qui va contre la force?
Mais justement, je pense que là, le fait que certains en parlent, pardon, c'est que du coup, c'est comme s'ils se retiraient du fait que voilà, maintenant l'homme n'a plus la supériorité, donc parler de ses problèmes, c'est devenu commun.
Bon, je pense qu'il y a un lien avec la rationalité, la raison. Si tu montes tes émotions, tu ne contrôles plus ta raison et donc tu ne peux plus assumer un certain pouvoir qui doit être dénué justement de sentimentalisme, de sensiblerie. Auquel cas, on perdrait le contrôle, on n'arriverait pas à avoir un aplomb pour n'importe quelle situation. Donc c'est aussi cette idée-là.
À présent, on peut réfléchir à des solutions. Des solutions qui pourraient mener les hommes à en parler beaucoup plus, et des solutions qui pourraient réellement impacter la société.
Décomplexer, des solutions qui pourraient, je veux dire, décomplexer les hommes à parler davantage aussi de leur mal-être s'ils en ont besoin.
En fait, moi j'avais pensé à une idée, mais c'est pas que pour le cas des hommes, c'est aussi bien pour le cas des femmes et tout autre genre, mais ce serait bien qu'on instaure une espèce de système dans l'éducation, c'est-à-dire comme un cours ou comme une séance qu'on a une fois par semaine, deux fois par semaine, d'écoute simplement, où juste on discute. Parce que je trouve qu'on vient à l'école tous les matins, 8h jusqu'à 17h. C'est bien d'étudier, c'est bien d'apprendre des choses, de faire des comptes rendus, des mémoires, tout ça, ok. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de place à la discussion et à l'échange, en fait, tout simplement. Il y a un gros manque de ça. Et au final, quand on sort de l'école et qu'on va étudier plus tard, ce dont on a besoin en premier, c'est d'abord de l'expérience des autres et pour forger notre expérience, en fait. Et que si on va à l'étranger ou on sort de notre petit cadre de l'école pour aller dans l'océan qui est le monde, en fait, on n'est juste pas préparé et c'est là où on souffre vraiment. Et c'est là où on a du mal, du coup, à se retrouver, à trouver des repères et régler ses problèmes. Donc discuter, en fait, des séances d'écoute, de discussion. Voilà.
Je pense qu'aussi, toucher les parents, je ne sais pas par quel moyen, ce serait vraiment important parce qu'en réalité, l'enfant... son exemple, le plus gros exemple qu'il a, c'est surtout ses parents. Et que même si à l'école on peut en parler, tant que ses parents continuent à être fixés sur certaines idées, ça ne va pas changer grand-chose. Donc je pense qu'il faut d'abord toucher les parents pour que ça arrive aux enfants. Mais du coup, l'école aussi, c'est une très bonne solution, c'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'en matière d'éducation, on compte beaucoup, je vais ressortir des termes d'espèce, mais c'est la socialisation primaire. Donc tout ce qui concerne les parents... l'école en général, et c'est vrai que je pense qu'on généralise trop le fait que les parents, c'est les anciens, ceux qui connaissent tout, qui ont le vécu, et qui pourtant n'ont pas la teneur de la vérité. Et peut-être que justement, oui, l'éducation nationale compte un peu trop sur cette valeur de vérité que sont censés nous donner les parents, là où on en manque pas mal en réalité.
Et les parents eux-mêmes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un individu, qu'on est issu d'une structure familiale, bah on reçoit en héritage de façon complètement immatérielle toute la pesanteur mentale des parents, c'est-à-dire eux-mêmes n'ont pas extériorisé toute l'éducation qu'ils ont vécue avec toute la charge de représentation qu'ils peuvent avoir, qui vont véhiculer à leurs enfants. Donc après, c'est une question de transmission. C'est pour ça que je veux dire, c'est difficile à détricoter tout ça en réalité. Mmh. Les structures mentales sont enracinées, elles sont vraiment très anciennes, elles sont marquées dans le temps.
C'est vrai que la déconstruction, du coup, devrait toucher un public plus âgé, oui.
Mais alors, puisque la femme, par exemple, au siècle précédent, n'avait pas, du coup, une place... elle se libérait pas autant que maintenant, mais pourtant, maintenant, on parle plus de sa santé mentale. Comment ça s'est fait?
Ça, c'est les générations actuelles, c'est pas forcément...
C'est vrai que c'est très récent.
Tu veux dire tout ce qui est, on parle de charge mentale, tout
oui,
ça.
C'est ça, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, la femme, c'est beaucoup plus facile qu'elle en parle, malgré le fait qu'au siècle dernier, non, sachant qu'elle a toujours été représentée de la même manière. Mais pourtant, pour l'homme, ça veut pas s'ouvrir.
Parce que je pense qu'il y a eu un travail de fond des mouvements féministes, qui ont commencé il y a des années 70 et qui ont perduré. Et comme le mouvement féministe, au départ, il est d'abord très dans une logique de combat collectif, va pas cibler tout de suite la question individuelle de dépression et de maladie. Et aujourd'hui, comme on est dans des sociétés ultra individualisées, on touche davantage à l'unité individu. Et c'est pour ça que la femme, elle, peut commencer à regarder son nombril et se dire qu'elle a des problèmes, etc. Je pense que voilà, c'est une question d'évolution des échelles en fait de combat. On était dans une échelle collective et on bascule aujourd'hui dans une individualisation des préoccupations, je trouve.
Je pense qu'aujourd'hui les gens se sont un peu plus en confiance sur le fait de pouvoir se détacher des autres et de créer des liens complémentaires. Du coup, oui, c'est le fait de s'individualiser. Et je pense que par là, et par l'avènement des réseaux sociaux aussi, il y a une déconstruction de la parole qui fait que les gens ont commencé à penser par eux-mêmes et à vouloir exprimer des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude puisqu'ils étaient plus embrigadés par l'effet de masse. Et oui, moi par exemple, je me souviens. Enfin, ouais, le plus tard dont je me souviens, on a commencé à parler de la question mentale, j'étais très jeune en soi. C'était des comptes comme Rose Carpet, qui faisaient des vidéos un peu qui éduquaient sur le terme de la dépression. Mais c'était pas très vu non plus. Je sais que déjà à l'époque, il y avait pas mal de commentaires négatifs sous ce genre de post qui disaient oui, bon, il n'y a pas tout le monde qui a envie de savoir ça et tout. Peut-être une forme d'égoïsme qui faisait que les gens qui avaient peur d'en parler ne voulaient pas entendre d'autres personnes en parler. Et je pense qu'il y a encore ça chez les hommes, souvent en mode oui, pourquoi toi tu te plains, pourquoi moi je pourrais pas dire ça non plus. Et peut-être un égoïsme qui s'est déconstruit chez les femmes, parce que tout le monde s'aperçut qu'au final, ça ne changeait rien à la vie de personne, en fait, de parler de sa santé mentale.
Oui. Après, c'est peut-être une question de faiblesse aussi. Hein. Peut-être quelqu'un ne se trouve pas assez fort, se dit, bon, lui a réussi à parler, mais moi, j'y arriverai peut-être pas. Il y a, surtout de nos jours, avec les réseaux sociaux, les moqueries, les problèmes, se retrouver, par exemple, à parler devant beaucoup de monde, ou bien même devant une personne, ça peut être compliqué pour certains.
Ouais, c'est vrai que l'image aujourd'hui, elle a jamais pris une ampleur aussi...
Ça importe énormément.
Ouais. Ouais. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, à la limite, je trouve qu'avant les réseaux sociaux, le fait d'avoir une mauvaise image, ça ne se déportait pas jusqu'à chez soi. Là aujourd'hui, ce que tu as dit, on imaginait ce matin, on peut finir ce soir dans ton téléphone en fait.
Donc, ça suit la vie.
Ouais. Du coup, c'est à la fois néfaste et utile.
Ouais.
Ça peut aider, mais
ça déconstruit des paroles. Mmh. Mais d'un autre côté, ça en a fait suivre d'autres.
Je pense qu'on peut passer à la conclusion de ce podcast, en espérant qu'il aidera certains hommes à plus parler.
On espère, oui.
Ça va tout changer.
C'est le but, c'était le but.
Du coup, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
J'aimerais bien commencer. Si je devais dire quelque chose pour conclure ce podcast... Je dirais simplement qu'il faut vraiment pas. Bon, après, c'est très bateau hein, comme phrase, mais il faut vraiment pas en avoir peur parce que plus on en a peur, plus ça grandit et plus on en a lourd sur la conscience. C'est là où vraiment c'est difficile. Il faut pas attendre que le sac se remplisse trop pour le vider parce que c'est là où c'est compliqué. Il faut trouver quelqu'un, la bonne personne, les bonnes personnes pour en parler. Si quelque chose va mal, si vous sentez que tout roule pas comme d'habitude, c'est là où il faut en parler, il ne faut pas hésiter. Et si vous ne trouvez pas des gens à qui parler, bah vous en trouverez certainement, parce qu'on trouve toujours quelqu'un sur qui compter, et c'est ça la magie de la vie.
Et puis sinon, il y a des spécialistes, comme on l'a dit tout à l'heure, des psychologues, il ne faut vraiment pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas se dire que ce n'est pas si important que ça, parce que ça aide toujours, même si il y a des choses plus graves, mais c'est quand même une chose importante.
Ça a une influence sur pas mal de choses dans vos vies, sur votre productivité, sur votre capacité à gérer les choses.
Votre
et
santé.
C'est vrai que oui, exactement. Aussi. En fait, c'est pas. On va dire la santé mentale n'est pas une maladie, mais ça impacte quand même pas mal de choses et ça peut durer dans le temps. Donc, on va dire que c'est important d'en parler très tôt.
Bah, moi, ce podcast, il m'a fait penser tout de suite à un livre écrit par Faiz Again qui s'appelle, donc le titre est assez évocateur, hein, Un homme, ça ne pleure pas. Justement, elle montre justement toute la pesanteur sociale qui existe hein, chez beaucoup d'hommes hein, sur le fait qu'on est empêché par des forces qui nous dépassent de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire une introspection sur soi. Je crois qu'au contraire, il faut se libérer, ne pas dire aux enfants, aux petits garçons, il ne faut pas pleurer, que c'est les filles qui pleurent. Ça commence comme ça en réalité. Il y a du boulot, il y a du chemin. Ça passe par des paroles. Et tu as évoqué, Dorian, l'éducation.
Oui.
Il faudrait un temps comme ça de discussion sur justement nos rapports sociaux entre êtres humains. Et aussi un temps pour réceptionner nos paroles, nos émotions. On se rend compte à quel point finalement c'est important pour avancer. Parce qu'autrement. On garde, on accumule des choses et après, bah, ça explose. Ça ne peut qu'exploser de toute façon. On ne peut pas s'en tirer si on est mal à un moment donné.
C'est vrai que le titre du roman que vous avez cité, c'était un peu l'origine du sujet de ce podcast, parce qu'on s'était posé la question pourquoi les garçons ne pleurent pas. Du coup, je pose comme double conclusion, pourquoi est-ce que vous ne pleurez pas?
Est-ce qu'ils ne pleurent pas?
Peut-être. Ah, c'est vrai.
Aussi que.
Oui. Ah, c'est mieux, la question est mieux formulée comme ça, je pense. Si, bien sûr, bah, qui ne pleure pas quand même? Qui n'a jamais pleuré? On commence, notre commencement est de pleurer. On a tous pleuré à la naissance. Bon, ça c'est un exemple, bien sûr, mais on pleure tout le temps. C'est évident. Quand on a un coup de mou, bien sûr qu'on va pleurer. Quand on est humilié, bien sûr qu'on va pleurer. Quand on a des mauvaises notes, on va pleurer. Je vois pas pourquoi on pleurerait pas. Enfin, c'est naturel. Enfin, y a aucun souci à pleurer. C'est même, moi, je trouve que pleurer, ça prouve que quand même la personne se rend compte et c'est là où elle accepte le fait de s'ouvrir et de libérer en fait son malheur au lieu de le contenir et se faire encore plus de mal en fait. Pleurer, c'est un vrai soulagement, moi, je trouve.
Le dire par les larmes.
Voilà, exactement.
Après, ça dépend de chacun comment, chaque personne, comment il arrive à extérioriser sa peine, son mal, sa colère. Certaines peuvent pleurer par colère, par chacun comment on le ressent. Mais bon, il reste quand même une part de fierté derrière qui fait qu'on ne pleure pas.
Oui, et chacun
donc,
comment il extériorise.
C'est l'art pour montrer qu'on n'a pas peur.
Exactement.
C'est vrai que j'ai beaucoup plus vu la situation d'une fille qui pleure et ses amis la soutiennent qu'un garçon
qui pleure.
Qui pleure
Oui, je l'ai pas arrivé, mais c'est vrai que c'est plus rare.
C'est très rare, oui, effectivement.
Mais en vrai, après, voilà, ça dépend des personnes, comment ils extériorisent leurs émotions, mais ouais, ça aide. Je propose,
et ça débouche souvent sous la colère, du coup. Le fait que certains hommes, du coup, ne pleurent pas ou...
Oui.
Ne donnent pas leurs émotions, ça crée une sorte de tension et c'est là que tout se rejette en colère et ça le problème, je pense.
Je propose comme titre au podcast c'était les hommes ne pleurent pas, c'est ça?
Ouais. Un homme, ça ne pleure pas.
Un homme, ça ne pleure pas. Ok, bah parfait.
Est-ce que vous avez d'autres recommandations, comme a fait madame?
Ouais, Emine, t'as pas...
Des recommandations? Peut-être, non, des trucs?
Actuellement, non.
Ben, moi, j'avais la chanson de Roméo Elvis, Les hommes ne pleurent pas. Voilà. C'est une chanson que j'aime bien et que j'ai écoutée il y a quelques jours. Donc, ça tombe bien.
C'est vrai que dans le style musical, il y a Eddie DePreto, oui, qui a pas mal chanté Kid, par exemple, bah justement sur l'aspect de l'éducation qui joue sur l'homme, pourquoi tu pleures mon fils, enfin, c'est vraiment un truc comme ça. J'avais aussi un compte Instagram qu'il faut que je retrouve, qui était vraiment...
À l'inverse, mais justement, c'est le contre-pied de tout ça, je pense à ça, mais quand, comment il s'appelle, Justin Timberlake chante Cry Me a River, il veut, dans cette chanson, en fait, montrer qu'il va se venger de son ex qui l'a fait souffrir, et il lui dit dans la chanson, mais tu vas pleurer, mais toutes les larmes de ton corps. C'est intéressant de voir, justement, cette attribution des larmes, justement, à la femme qui, justement, elle, est plus faible, et lui, justement, il pleurera pas parce qu'il prend les devants. Là encore, on est dans la représentation des larmes qui sont forcément féminines. C'est intéressant.
J'ai trouvé le compte Instagram, ça s'appelle Les Garçons Parlent. Et en fait, c'est beaucoup de petits posts qui parlent des différents problèmes abordés au masculin. Par exemple, je parle de mon père, un garçon parle de ses parents. Quelles sont les plus grandes peurs des hommes? Et c'est plein de petits sujets comme ça qui sont abordés bah, du coup, d'un point de vue masculin. Et qui essaient de déconstruire. Après, des fois, c'est un peu cliché parce qu'il ressort juste des choses qui sont en fait vraiment véridiques sur notre société. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent des sujets qui ne sont pas beaucoup abordés. Bah, par exemple, les peurs des hommes. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'on aborde beaucoup les peurs des femmes, qu'on cliché aussi des fois. Par exemple, la peur des araignées. Voilà.
Ouais, des hommes qui ont peur des araignées.
Hein. Oui, voilà, ouais, en plus.
Bah, c'est plus rare.
Ce compte, c'est
toujours moins. Ouais, je pense. Parce que l'éducation fait que les hommes grandissent sans pour autant avoir de peur. Ou bien, parce que du coup, il faut être un homme.
Ça fait qu'il faut prouver aux femmes, justement, qu'on gère la situation.
On n'a pas peur des araignées.
Non, c'est vrai que si on dit « oui, va tuer l'araignée », on le dirait plus à un homme qu'à une femme. Oui. Là où à la fin, on dirait « éloigne-toi un peu ».
C'est vrai. Bah, je pense que ce podcast arrive à sa fin.
Oui,
on vous remercie tous pour votre participation.
C'était excellent.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté.
On vous laisse sur la musique de Roméo Elvis. Tu
peux la mettre à la fin. On vous laisse sur la musique de Roméo Elvis. Voilà. Et voilà. Passez une agréable soirée.
En espérant que ça vous aidera. Ma faute, Johnny.